Et c'est le journal de France Culture. Bonsoir.
Avec Stanislas Vazak.
Bonsoir. L'Allemagne s'enfonce dans la crise politique. Annegret Kramp-Karrenbauer renonce à briguer la succession d'Angela Merkel l'an prochain. La CDU de la chancelière est fragilisée par l'irruption de l'extrême droite dans le paysage politique allemand. La correspondance de Ludovic Piétenu dans un instant. 5 soldats turcs tués en Syrie. Les affrontements se multiplient entre la Turquie d'Erdogan et le régime Assad autour d'Idleb. Les précisions d'Anne Andloer. En France, l'État a signé en justice pour faute lourde après un triple assassinat. Un homme qui avait tué son ancienne compagne et les parents de celle-ci dans le Nord. Les explications de Florence Thiom. Des élus et des ONG contestent les arrêtés anti-pesticides du gouvernement. Ils jugent insuffisantes les distances à respecter pour utiliser les produits. Adrien Toffolé a suivi l'audience au Conseil d'État. Enfin, le dossier de ce journal sera consacré à une policière, Juliette Alpha. C'est un surnom qui raconte sa vie de flic parisienne dans un livre, un dossier signé Pierre-Antoine Lefort. Angela Merkel a perdu sa dauphine. Annegret Kramp-Karrenbauer a annoncé ce matin qu'elle renonçait à briguer la chancellerie lors des prochaines législatives prévues normalement en septembre 2021. AKK, comme on la surnomme en Allemagne, va aussi quitter la présidence de la CDU dans les prochains mois. Elle tire les leçons du fiasco électoral en Thuringe, l'éphémère élection d'un président de région libérale avec le soutien de l'extrême droite et de la CDU d'Angela Merkel. Annegret Kramp-Karrenbauer a pris la parole tout à l'heure pour expliquer sa décision.
Je ne serai pas candidate au poste de chancelière. Je vais diriger le processus de désignation d'un candidat ou d'une candidate. Pour moi, il est très clair qu'en renonçant à ma propre candidature, je peux rendre ce processus beaucoup plus libre parce que je peux m'attaquer à tout ce qui est nécessaire sans qu'on suppose que je le fasse dans mon propre intérêt.
Ohne dass man mir unterstellt, dass ich dies in einem eigenen Interesse tue.
Ludovic Piétenu, bonsoir. Ludovic Piétenu, en direct de Berlin, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui, bonsoir.
Il y a 4 prétendants pour succéder à Annegret Kramp-Karrenbauer à la tête de la CDU, et certains de ces prétendants envisagent un virage à droite.
Oui, et principalement Stanislas, celui qui apparaît comme le favori, Friedrich Merz. C'est contre lui qu'Annegret Kramp-Karrenbauer avait remporté de justesse la présidence de la CDU il y a 14 mois seulement. Une victoire de Merz symboliserait un retour aux racines plus conservatrices de la CDU. Merz, c'est un avocat de 64 ans qui ne porte pas Angela Merkel dans son cœur. Et hasard du calendrier, il a quitté la semaine dernière son poste de gestionnaire d'actifs chez le géant BlackRock. On peut citer aussi Jens Spahn, un autre adversaire d'AKK. Il avait terminé troisième lors de cette course à la présidence. C'est le plus jeune, 39 ans. Il est ministre de la Santé, très en vue. S'il était lui aussi, en décembre 2018, très critique des années Merkel, il a depuis un an adouci ses positions. Plus central encore, Armin Laschet, 58 ans. Il dirige le Grand Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, la plus grosse fédération de la CDU en Allemagne. Il a toujours été loyal envers la chancelière Merkel, toujours soutenu sa politique d'accueil des réfugiés. Il y aura sans doute d'autres candidatures dans les prochaines semaines, comme celle venant du parti frère bavarois plus conservateur que la CDU, Markus Söder, actuel dirigeant de la CSU, des positions très à droite, teintées d'écologie, et l'homme s'est fait remarquer positivement en étant le plus rapide à réagir la semaine dernière après l'épisode politique en Thuringe. Il a condamné fermement toute forme d'alliance avec l'extrême droite. La possibilité d'un virage politique plus à droite pour la CDU est une question qui sera tranchée par les délégués lors du prochain congrès du parti quand ils choisiront le projet, leur chef et le candidat à la chancellerie. Ce qui est certain, c'est que celui qui ambitionnera de succéder à 2 femmes, Kramp-Karrenbauer et Merkel, sera forcément un homme.
Ludovic Piétenu en direct de Berlin, merci. En Syrie, dans le nord-ouest du pays, la situation se dégrade d'heure en heure. Le régime Assad intensifie son offensive militaire pour reprendre aux islamistes la région d'Idleb avec le soutien de l'aviation russe. Des violents combats qui débouchent sur des affrontements avec les militaires turcs présents dans la zone. 5 soldats d'Ankara ont été tués aujourd'hui par des tirs de l'artillerie syrienne. La semaine dernière, un premier affrontement entre Syriens et Turcs avait déjà fait une 20aine de morts de chaque côté. Anne Andloer nous appelle d'Istanbul.
L'attaque a eu lieu près de la base aérienne de Taftanas, dans l'une des zones où l'armée turque avait récemment renforcé sa présence pour tenter de contrer l'offensive du régime syrien sur Idleb. Depuis début février, plus de 1200 véhicules militaires, transportant notamment des chars et des soldats, ont traversé la frontière turco-syrienne pour entrer à Idleb. Leur mission, fortifier les 12 postes d'observation turcs dans cette province et établir de nouvelles lignes de défense. Ce déploiement de forces inédit, puisqu'il surpasserait les moyens mis en œuvre par l'armée turque lors de ses 3 précédentes offensives en territoire syrien, intervient alors que le président Recep Tayyip Erdogan a lancé la semaine dernière un ultimatum à Bachar el-Assad. Retirer ses troupes des abords des postes militaires turc à Idleb d'ici fin février ou affronter une opération de l'armée turque. Tayyip Erdogan menace ainsi d'intervenir militairement pour créer de fait une zone de sécurité à Idleb. Mais la mise en pratique de cette menace pose de nombreuses questions. Comment, par exemple, la Turquie compte-t-elle empêcher le régime de poursuivre ses bombardements aériens et protéger ses propres soldats alors que l'espace aérien dans cette zone est contrôlé par la Russie? Que le régime syrien et son allié russe aient voulu tester les limites d'Ankara ou qu'ils cherchent à provoquer un affrontement, ce nouvel incident signale que le risque d'un conflit entre les armées turques et syriennes à Idleb est de plus en plus probable. À moins qu'un compromis avec Moscou ne fasse baisser la tension. La mort des soldats turcs a d'ailleurs été annoncée alors qu'une délégation russe était à Ankara pour discuter du sort d'Idleb. La rencontre s'est achevée sans résultat.
Anne Andloer, correspondante de RFI en Turquie. La liberté de la presse est menacée au Cameroun, selon Reporters sans frontières. L'association manifestait ce matin à Paris devant l'ambassade camerounaise. RSF demande la libération de l'ancien patron de la chaîne de télévision publique camerounaise, Amadou Vamulke. Il est en détention provisoire depuis 3 ans et demi, accusé d'avoir détourné plusieurs millions d'euros au détriment de la chaîne CRTV. Accusation infondée, selon Reporters sans frontières. Le reporter de Pauline Joss.
Un gâteau d'anniversaire à la main, les manifestants de Reporters sans frontières rappellent que le journaliste camerounais fête son 70e anniversaire ce lundi derrière les barreaux. Une situation inacceptable pour Arnaud Froger, le responsable du bureau Afrique de l'association.
C'est un anniversaire qui pour lui et pour ses proches et pour les gens qui soutiennent a un goût terriblement amer. C'est un journaliste qui fait l'objet d'un procès sans fin. Et puis au-delà du caractère arbitraire de la détention, des poursuites sans fondement dont il fait l'objet, c'est aussi quelqu'un qui est malade. Ce monsieur a besoin d'être évacué pour réaliser des examens et des soins médicaux appropriés. Donc au-delà d'être privé, si vous voulez, de sa liberté, on s'attaque aussi à sa santé, à sa dignité. Et c'est ça qui est particulièrement intolérable.
Olivier observe un peu en retrait l'attroupement devant l'ambassade du Cameroun. Selon lui, le cas de ce journaliste n'est malheureusement pas isolé.
Les journalistes, ils sont nombreux, il n'y a pas que lui, il y a d'autres journalistes qui sont emprisonnés. C'est une prison à ciel ouvert et c'est au vu et au su de tous les médias du monde.
Reporters sans frontières a profité de cette action pour adresser une lettre au président camerounais Paul Biya et demander l'évacuation sanitaire d'Amadou Vamulke.
Voilà pour ce reportage de Pauline Joss devant l'ambassade du Cameroun à Paris. La justice française a aggravé en appel la peine infligée à Théodorine Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et 30 millions d'euros d'amende. En première instance, l'amende était assortie du sursis. Il s'agit de l'affaire dite des biens mal acquis. Théodorine Obiang est soupçonnée d'avoir blanchi en France 150 millions d'euros. 4 Français sont à bord du paquebot Diamond Princess, ce navire en quarantaine au large de Yokohama au Japon en raison du coronavirus chinois. Il y a 3 passagers et un membre d'équipage. Ces 4 Français n'ont pas été contaminés, contrairement à 135 personnes à bord qui ont été infectées. En Chine continentale, le coronavirus a déjà provoqué la mort de 908 personnes et plus de 40 000 personnes sont contaminées. En France, 24 heures après la découverte du corps de la petite Vanille, Nathalie Stéphan, la mère, est toujours en garde à vue au commissariat d'Angers. Cette femme de 39 ans a reconnu avoir tué sa fille vendredi. Elle devait remettre l'enfant aux services sociaux après avoir passé la journée avec Vanille. L'alerte enlèvement diffusée dans toute la France est arrivée trop tard. Antoine Marette, bonsoir.
Bonsoir.
Le procureur d'Angers vient de faire le point sur cette dramatique affaire.
Et on en sait un peu plus désormais sur le profil de la mère, Nathalie Stéphan, 39 ans. ans, mère de deux filles. Elle était suivie sur le plan psychologique et sur le plan éducatif. Elle vivait dans le foyer de mère isolée d'Angers depuis un an, foyer qu'elle allait devoir quitter. C'est peut-être l'élément déclencheur de son passage à l'acte. Sauf qu'aucun signe ne le laissait penser, selon le procureur. Les services avaient même constaté une amélioration apparente de son comportement à l'égard de sa fille. L'enfant était confié au département. La mère avait un droit de visite d'une journée et une nuit par semaine, un droit de visite sans tiers pendant lequel le drame s'est produit. Mais pour le procureur, il n'y a eu aucune responsabilité des services sociaux dans cette affaire. La garde à vue de Nathalie Stéphan va se prolonger jusqu'à demain matin. Le magistrat instructeur va être saisi pour homicide volontaire aggravé. Les faits seraient prémédités. L'autopsie qui a eu lieu cet après-midi confirme le décès de Vanny au moment indiqué par la mère, par étouffement. Une expertise psychologique de la suspecte va tenter de déterminer son degré de responsabilité.
Antoine Namaretz, merci. L'État en procès après un triple assassinat commis sur fond de violence conjugale. Après le meurtre de sa sœur et de ses parents en août 2014, Cathy Thomas a assigné l'État au tribunal pour faute lourde. Elle estime que des dysfonctionnements dans la chaîne pénale ont conduit à ce triple assassinat, car sa sœur avait porté plainte à plusieurs reprises contre son ancien compagnon. Ce dernier avait été placé sous contrôle judiciaire, contrôle qu'il ne respectait pas, et il avait fini par abattre Isabelle Thomas et ses parents après une course-poursuite en voiture dans les rues de Grande-Synthe dans le Nord. Patrick Lemoine s'est par la suite pendu dans la prison où il était incarcéré. Florence Thurm, bonsoir.
Bonsoir.
Aujourd'hui, c'est donc un tribunal civil qui était chargé d'examiner ce dossier où la responsabilité de l'État se trouve mise en cause.
Oui, Patrick Lemoine ne sera jamais jugé pour ce triple assassinat. Vous l'avez dit, il s'est suicidé en prison. Mais cet après-midi, l'audience civile était empreinte de la même gravité, de la même émotion qui prévaut en cour d'assises, portée notamment par l'avocate de la famille qui va prendre le temps de rappeler le dossier dans ses moindres détails. La première plainte déposée par Isabelle Thomas, professeure de mathématiques, contre son compagnon et ses violences répétées. Le médecin qui dit ne jamais avoir vu autant de bleu sur un corps. Les menaces de mort proférées par Patrick Lemoine. Son placement sous contrôle judiciaire dans l'attente d'un procès. Le harcèlement qui reprend malgré tout jusqu'à cette course-poursuite meurtrière durant laquelle Isabelle Thomas tente d'alerter la police. L'appel passé au commissariat tout proche, l'incompréhension manifeste du fonctionnaire et l'arrivée des secours, mais trop tard. Autant de manquements pour la sœur de la victime, Cathy Thomas.
C'est important pour mes parents et de ma sœur, et puis pour toutes ces femmes encore qui se font assassiner alors qu'elles ont porté plainte. Isabelle l'a fait 3 fois et je sais qu'il y a plein de femmes qui le font. Et on va continuer de se battre pour changer les choses et expliquer au gouvernement qu'il faut qu'il bouge les lignes et que ça sert à rien de faire juste des grenelles, faut sauver des vies.
Y a-t-il eu dans ce dossier une faute lourde de l'institution judiciaire et des carences des services de police? Le représentant de l'État conteste pour sa part un quelconque dysfonctionnement. La procureure s'est montrée moins catégorique. Pour elle, l'absence de sanctions malgré la violation du contrôle judiciaire reste une question ouverte et elle laisse au tribunal le soin de la trancher.
Florence Thurm, merci. Le tribunal qui rendra sa décision le 23 mars prochain. Le Midazolam, un puissant sédatif jusqu'ici réservé à l'hôpital, sera disponible d'ici 4 mois en pharmacie pour les soins palliatifs à domicile. Annonce cet après-midi du ministère de la Santé. Les médecins qui prennent en charge des patients en fin de vie chez eux pourront administrer le Midazolam. Le ministère suit la recommandation de la Haute Autorité de la Santé qui rappelle que la loi sur la fin de vie autorise la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Les maires mobilisés contre les pesticides contestent en justice les distances d'épandage fixées par le gouvernement. Le Conseil d'État examinait aujourd'hui les requêtes de plusieurs élus soutenus par des ONG. Adrien Toffolet, bonsoir.
Bonsoir.
Au cœur de la polémique, il y a un arrêté et un décret du 27 décembre qui fixe les limites à respecter pour l'utilisation des pesticides.
5 mètres pour les cultures dites basses, les légumes, les céréales, 10 mètres pour les cultures hautes, les vignes par exemple, 20 mètres quand il s'agit des produits les plus dangereux. Ces distances de sécurité sont une réponse de l'exécutif à la polémique née des arrêtés anti-pesticides pris par les maires de plusieurs communes, mais aussi à une première décision du Conseil d'État qui avait estimé dès juin dernier que la réglementation sur l'utilisation de ces produits ne protégeait pas suffisamment la santé des riverains. Ces nouvelles distances sont-elles maintenant suffisantes pour protéger les populations? Non, répond le collectif des maires anti-pesticides, dont Daniel Cueff, l'édile de l'Angouette en Ille-et-de-Vilaine, le visage de la Fronde Rurale et le président.
Le ministère de l'Agriculture confond le moment où on met les pesticides, c'est-à-dire le moment où les pulvérisateurs pulvérisent. Là, il y a des procédés antidérives qui sont de plus en plus sophistiqués et qui évitent que les gouttelettes aillent dans le champ du voisin, dans les yeux des enfants qui sont en train de se balader par là. Mais après, dans les secondes qui suivent, dans les minutes qui suivent, et surtout en fonction du soleil ou de l'hydrothermie, vous allez trouver une grande partie de ces pesticides dans l'air. Et ça, on n'a pas mesuré ces pesticides. Et on nous fait croire que les pesticides vont rester dans l'air à hauteur du champ.
Et on nous refait le coup du nuage de Tchernobyl. On a d'ailleurs lancé les édiles au Conseil d'État. Pas du tout à tenter de défendre le ministère de l'Agriculture en s'appuyant sur des études d'impact de l'ANSES. Mais elles datent des années 80, soulignent les opposants. Toutes les études d'impact sur les populations seront faites en 2021 par l'ANSES. Par ailleurs, des contrôles doivent être faits au moment de l'utilisation des produits dans les exploitations. Ils sont inexistants, assure le collectif, pour qui il faut donc appliquer un principe de précaution et suspendre le décret. La décision du Conseil d'État sera rendue d'ici vendredi.
Adrien Toffolet, merci. Le dossier de la rédaction est consacré ce soir à une policière de la base en poste à Paris. Elle utilise un pseudonyme, Juliette Alpha, pour évoquer sur Twitter son quotidien. Aujourd'hui, Juliette Alpha sort un livre, Vie ma vie de flic. Elle y raconte ses presque 5 années passées à police secours. Exercice d'autant plus délicat que les policiers sont soumis au devoir de réserve. Pierre-Antoine Lefort a rencontré Juliette Alpha.
C'est d'abord sur Twitter que Juliette Alpha raconte ses histoires. La policière y dépeint les scènes de vie dans son commissariat d'arrondissement. Et puis vient le 1er décembre 2018, acte 3 des Gilets jaunes. Elle est en première ligne près de l'Arc de Triomphe. Plus de 12 heures d'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre, de gaz lacrymogène, de jets de pavés ou de vis de chantier. 2 jours plus tard, elle publie une longue série de messages sur le réseau social.
C'est un exercice un peu cathartique et un exutoire, faut dire ce qui est. Et j'ai mis à peu près 2 jours. À pondre le texte parce que fallait le temps que je digère, fallait le temps que le process se fasse et que j'arrive à mettre les mots dessus tout simplement.
Un texte partagé près de 3000 fois, repéré par une maison d'édition qui propose à la policière d'écrire un livre. Juliette Alpha hésite.
Effectivement, entre écrire un texte de 10 lignes et écrire un livre de 253 pages, si je n'abuse, il y a effectivement un monde et les premiers instants, je m'en sentais pas forcément capable.
Avant d'accepter, c'est ainsi que naît Vie ma vie de flic, une plongée dans l'univers de la police secours.
Ça reste un service qui est assez méconnu. Voilà, on montre beaucoup les policiers qui cassent des portes à 6h le matin, les reportages un peu chocs, qui font un peu réagir tout le monde et qui met des étoiles dans les yeux de beaucoup de gens. Mais c'est pas ça le quotidien de la police. C'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup de médiation. Et je trouvais que c'était vraiment nécessaire de le montrer.
Un métier aux multiples facettes.
Quand on ne sait pas qui envoyer, c'est la police secours. Parce que vous savez à peu près pallier à tout. Vous êtes capable de gérer du tapage entre voisins le samedi matin parce que vous n'arrivez pas à dormir, à être primo-intervenant sur un individu retranché à domicile en attendant l'arrivée des services spécialisés comme la BRI par exemple.
Mais aussi les accidents de la route, les violences conjugales, les vols à l'étalage, le flagrant délit ou lors de la découverte d'un corps sans vie.
Donc ça c'est vraiment une des missions principales de la police secours. Mon premier cadavre, il a intervenu très très vite suite à mon arrivée à Paris. Donc j'étais stagiaire depuis quelques jours, quelques semaines. Et c'était un monsieur qui était en fort surpoids. Et du coup, on a dû, avec mon major, aider les pompes funèbres pour descendre le corps. Parce qu'ils n'y arrivaient pas à deux. Ça reste des visions très compliquées pour des jeunes, parce qu'on est des jeunes gens. Hein. On a entre 20 et 30 ans, pour la plupart, dans les brigades de police secours. En tout cas, sur la capitale, c'est important de mettre à l'honneur ces hommes et ces femmes qui constituent les polices secours de France.
Dans Vie ma vie de flic, Juliette Alpha n'épargne pas l'institution. Elle pointe du doigt le manque de moyens, le matériel vieillissant, la politique du chiffre, mais aussi les suicides dans les rangs, 59 en 2019. Et entre liberté de ton et respect du devoir de réserve, l'exercice s'annonçait ardu.
C'est effectivement un jeu d'équilibre et de contrebalancier difficile. Tous les sujets dont que j'ai abordés, je les ai abordés de manière libre, avec une forte réflexion. Donc du coup, ça m'a permis de les aborder sans sortir de mon devoir de réserve et tout en disant ce que je pensais. Donc non, je me suis rien interdit.
D'ici quelques semaines, Juliette Alpha quittera la police secours pour rejoindre un service de police judiciaire. Si elle me manque de trop, j'y retournerai, conclut-elle.
Pierre-Antoine Lefort, Vie ma vie de flic de Juliette Alpha, écrit avec le chercheur spécialisé dans la sécurité publique Mathieu Zagrodzki, ouvrage publié aux éditions Hugo Doc. Après le passage de la tempête Ciara sur la France, environ 90 000 foyers restent privés d'électricité. Le temps demain sera toujours agité sur une bonne partie du pays. Une vigilance orange au vent concernera les Alpes-Maritimes et la Corse. Vigilance orange également pour plusieurs départements en Bretagne et en Normandie. cette fois pour vagues, submersions et inondations. Les températures minimales sont en baisse de 4 à 14 degrés du nord au sud. Les maximales seront, elles, comprises entre 8 et 19 degrés. Il fera même 24 degrés en Corse. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.